Et là-dessus, on s'en va en Gaspésie. C'est là où vous êtes, Anne-Marie Aubin?
Oui.
Bonjour Anne-Marie. Aujourd'hui, bon. Vous nous parlez de deux livres. Je pense que ce ne sont pas deux livres faciles. Hein? Sortie de nuit par Marie Gagnon et l'autre s'intitule Ressac, écrit par Linda Dion.
Oui, deux livres qui ont des points en commun, qui ne racontent pas du tout la même histoire, mais qui à la base parlent de deux femmes qui souffrent. Marie Gagnon, ce n'est pas son premier livre, elle a déjà publié de la poésie et des romans. Et ce livre-là vient après plusieurs années après son dernier titre paru en 2016, donc à peu près 10 ans. Et c'est une femme qui est née à Laval, qui a connu une carrière littéraire et qui va tomber dans la consommation, la toxicomanie. Et c'est ce qu'elle raconte dans cette histoire-là. L'histoire commence, il y a une fille qui lui ressemble beaucoup, là, qui est l'héroïne de l'histoire, et qui se trouve à l'UQAM et qui rencontre par hasard un professeur qu'elle a déjà connu quand elle était étudiante au cégep et lui avait enseigné la philosophie. Et il y a quelque chose entre les deux. Là. On sent qu'il s'est passé des sentiments au-delà de la relation prof-élève, mais sans plus. Elle a une admiration démesurée pour lui. Et là, elle le rencontre et il lui dit « Claudia », parce qu'elle s'appelle comme ça dans le livre, « voudrais-tu me prêter 100 $ ?» Alors, déjà, c'est étonnant qu'un prof, il est rendu prof et puis il y a un salaire qui lui demande 100 $ Elle lui en prête, aveuglée complètement, elle lui en donne 300. Ça aussi, c'est un peu étonnant. On comprend qu'elle est admirative complètement pour cet homme-là. Elle va le suivre. Et puis, il va l'entraîner peu à peu dans l'univers de la drogue. Et puis, la toxicomanie, la violence, ce qui vient avec. Et puis, pour... avoir ce qu'elle veut. Une femme qui prend de la drogue, ça coûte très cher. Elle a deux choix, la prostitution ou le vol. Et elle, c'est par le vol de petites choses qu'elle va ramener finalement au pusher. Puis cet homme-là va plus la détruire qu'autre chose, mais elle en est complètement amoureuse, aveuglée. Et puis plus tard, lui, il va mourir et puis elle va se retrouver dans la rue et ça va prendre des années avant qu'elle se remette de tout ça. Et pendant son séjour dans la rue, il y a des scènes qui nous sont décrites qui sont, ma foi, assez dures, surtout au début du livre. Et puis, peu à peu, on apprend à la connaître et à savoir quel était son passé, ses relations familiales et puis son manque, finalement, qui fait qu'elle va s'amouracher comme ça de cet homme-là. Et puis, elle va croiser, à un moment donné, un avocat qu'elle a déjà rencontré, qui est devenu itinérant. Comme quoi, finalement, les gens de la rue viennent de partout. C'est pas nécessairement des gens qui sont pauvres. Hein. Il y en a qui peuvent finalement dégringoler. Et cet homme-là lui dit, l'avocat, tu sais, ce qui me manque le plus, c'est pas le confort, c'est le regard. Le regard des autres. Celui qui dit, tu comptes. Maintenant, on regarde mes pieds ou on regarde ailleurs. Et effectivement, elle passe beaucoup de temps à décrire ce malaise d'être dans la rue comme un déchet, même pire qu'un déchet, et le regard des gens, le malaise que ça fait de voir ces gens-là dans la rue. Elle va parler d'une jeune fille très innocente aussi qui va m'emmener se faire arrêter, une prostituée, le milieu des piqueries, des prisons, parce qu'elle va évidemment, elle aussi, être une détenue. Et puis elle raconte à un moment donné qu'elle s'attarde derrière la prison à un arbre qui est en fleurs. Et puis une fille qui était détenue, spécialiste en botanique, lui avait dit que ça prend 6 mois la floraison de la fleur jusqu'à finalement la flétrissure. Et elle s'accroche à cet arbre-là parce qu'elle a 6 mois à faire. Et la vie de cette fleur-là est égale au séjour qu'elle doit y vivre. Donc il y a de très beaux passages quand même qui sont poétiques parce qu'elle dit... ces bourgeons incarnaient une lueur au bout de mon tunnel, comme une lumière, effectivement. Il y a des passages qui sont poétiques, il y en a qui sont sous forme réaliste, avec des dialogues à l'intérieur. C'est parfois digne de l'horreur, puis son parcours, lent, mais sûr, vers la sobriété. Là, on en apprend sur la justice, comment finalement on peut avoir un pardon et son immense courage pour devenir une infirmière. Parce que c'est pas simple, vu qu'elle a un dossier, parce qu'elle a fait des vols. Elle ne pourra pas être acceptée tout de suite, ça va être très long. Et puis, à un moment donné, sa mère est décédée, puis on voit sa relation avec son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et tout ça n'est pas chronologique. C'est tous des petits chapitres qui sont disparates. Il y a une trentaine de fragments. Et on compose avec ça. Puis là, on fait des liens. On dit, ah oui, gardons, c'est ça ici. Bon. Et on va voir comment elle va se sortir de cet enfer pour devenir une infirmière. Elle a une vraie vocation. Et elle nous décrit son travail dans le CHSLD, son attachement vers ces gens-là qui souffrent et qui n'ont pas d'issue. Parce que CHSLD, c'est un mouroir. Alors, c'est un récit qui finit bien, mais qui est très bouleversant, là, vraiment troublant, qui nous habite longtemps, et j'ai pas lu ça d'un trait.
Non.
Le début, je l'ai lu vraiment lentement pour assimiler tout ça. C'est des choses qu'on sait, mais qui sont décrites d'une façon très réaliste et qui nous touchent.
Est-ce que c'est bien écrit?
Oui, c'est très bien écrit. On voit qu'elle a une formation en littérature et qu'elle sait rendre ce qu'il y a dans son ventre, tout ce qu'elle décrit, les images qu'elle fait de ce milieu-là. Aussi, c'est beaucoup mieux féminin quand elle est incarcérée. Et puis la violence du monde de la drogue, il faut le dire, c'est fou. Alors, c'est un très beau livre qui, peu à peu, comme sa cure à elle, amène à la lumière. Et c'est un livre, c'est pas son premier, hein. Elle en a écrit plusieurs, ça se sent. Bref, une histoire que j'ai beaucoup appréciée, malgré la gravité du sujet et du traitement.
Oui, une vie infernale à cause d'un amour-passion toxique. Mais au moins, il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui. Sortie de nuit, hein, ça le dit, par Marie Gagnon aux éditions XYZ. Et puis l'autre proposition, c'est aussi une histoire qui n'est pas Jojo du tout. Ressac, par Linda Dion.
Bon, Ressac, d'abord, c'est le premier titre de nouvelle maison d'édition qui s'appelle « Le ventricule gauche ». Ça a été créé cet automne par Éric Simard. Puis lui, il se dit que dans cette maison-là, il veut donner la parole à des voix libres, fortes, entières, pour raconter la complexité de l'expérience humaine. Et effectivement, avec celle-là, c'est vraiment ce qui se passe. Linda Dion, c'est une autrice qui est née en 1960 à Québec et qui a longtemps vécu dans le canton de l'Est à Sherbrooke, avant de vivre à Montréal. Elle a publié plusieurs titres, c'est son cinquième titre, entre autres un titre qui s'appelle « Grosse » aux éditions Hamac, où elle parlait de son corps et de sa difficulté de vivre avec ce corps-là. Et puis ce roman-là, c'est une autofiction, qui a été, je dirais, provoqué suite à un choc qui s'est passé lors d'une rencontre, une table ronde dans une librairie, soi-disant féministe, qui est annoncée comme ça, où il y avait elle en tant qu'auteur littéraire, une personne qui parlait de la grossophobie sur un plan peut-être plus essai, et l'autre personne était un garçon. Mais bref, les autres, c'est pas des écrivains littéraires. Là. C'était des gens qui avaient écrit sur le sujet. Et puis bon, elle s'est trouvée au cœur d'un broglio, d'un malentendu pour avoir dit une phrase qui a choqué une personne dans la salle. Et je reviens au mot ressac, qui est le retour des vagues quand on frappe un obstacle. Elle s'est employée dans ce cas-ci pour vraiment décrire le choc qu'elle a subi, le trauma suite à ça. Alors, là, on peut dire qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle est accusée de raciste par la dame parce qu'elle a sans doute utilisé le mot en haine. Puis dans ce temps-là, quand elle a publié ce livre-là en 2018, donc elle a dû aller là en 2019, le mot en haine et tous les mots qu'on a censurés, c'était pas là, là. On était juste un peu avant. Et sans vouloir faire quoi que ce soit de raciste, au contraire, elle a expliqué qu'il y a un phénomène qui est social, à mon avis. Certains peuples n'ont pas le même rapport au corps féminin que nous au Québec, par exemple, ici, où c'est vraiment la minceur, l'Europe, c'est pas mal ça. Et elle a parlé des pays comme l'Afrique, la Tunisie, bon, tout ça. Alors là, elle s'est fait accuser de racisme par une personne, puis là, elle essaie de s'en sortir, puis elle s'en sort pas.
Plus elle s'explique, plus elle s'enfonce.
Voilà. Elle dit, ce jour-là de l'attaque, je me dilue, je perds en substance, je me rends à l'évidence et vaut mieux me taire, je me suis enlisée à force d'arguments tautologiques, je patauge dans la vase, j'ai la bouche pleine d'excréments que je ravale dignement, je consulte peut-être ma montre, combien de temps encore. Alors, c'est une torture. Puis au fond, après, avec le recul, qui se dit que c'était peut-être pas si grave que ça. Il n'y a peut-être pas eu tant de réactions, mais le lendemain, c'était sur la page Facebook de la librairie. Ça a pris une allure hallucinante sur les réseaux sociaux, comme les réseaux sociaux savent si bien le faire. Et elle ne se défend pas. Elle ne s'excuse pas. Elle fige. Elle ne sait pas quoi faire. Et puis là, ben, elle souffre. Elle souffre terriblement. Elle regrette. Là, ça tourne dans sa tête. Et là, ben, ce déclencheur-là va l'amener à écrire ce texte-là pour aller au fond d'elle-même et comprendre d'où vient cette culpabilité d'avoir dit ce mot-là et d'en faire un drame aussi important. D'où vient cette vulnérabilité? Et ce texte-là, c'est un texte qui explique d'où vient ce mal-là. Et c'est raconté au jeu, sans jamais de chapitre ni de point. Il y a des virgules. Et c'est bout à bout, là, toutes les pages qu'on lit sans arrêt. Il y a quelques virgules pour prendre le souffle, mais à peine. Et elle creuse très loin ses origines, son éducation, et on comprend tout.
C'est une grande remise en question, finalement.
Oui. Et puis bon, ben, de savoir d'où tu viens, ça te permet de comprendre là, ce malaise-là qu'il faut plus vivre, effectivement, puis qu'elle a vécu à répétition. Alors, par exemple, à un moment donné, c'est la journée de la femme, le 8 mars, il y a une manifestation, elle est adolescente, je crois, dans ce temps-là, et puis, donc, elle vit avec ses parents, puis ça passe à la télé, sa mère dit rien parce qu'elle comprend bien qu'elle devait être dans le groupe des manifesteurs. Son père, elle critique en disant, ouais, ces femmes-là sont bien mieux de rester à la maison puis s'occuper de leurs enfants, et elle lui répond, et les pères, là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Là, il se fâche, il donne un coup de poing sur la table, puis il la met dehors, puis il dit, je te donne 2 semaines pour quitter la place.
Oh, ben, susceptible, monsieur!
Elle dit, ouais, laisse faire, moi partir. Et elle quitte sa famille. On sent là déjà là, qu'il y a un grand malaise, une difficulté de communication, et ça va se répéter plusieurs fois dans son histoire qu'elle nous raconte d'une façon très authentique, très intime. C'est une personne vulnérable, sensible, et qui n'est pas capable de gérer ces émotions-là et ces violences-là. Et peu à peu, elle va apprendre à se connaître. Et l'écriture, c'est la façon pour elle, comme pour l'autre roman que j'ai présenté, de faire le point, de se comprendre. Et elle est retournée à ses journaux intimes à un moment donné pour parler de ses premiers amours. Et ses premiers amours qu'elle raconte, c'est souvent avec des personnes africaines, tunisiennes. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas raciste, c'est bien elle. Elle tombe en amour avec ces gars étrangers qu'elle trouve très beaux, très sensuels, et qui ont effectivement un rapport différent par rapport au corps des femmes, si on compare avec les pays plus occidentaux.
C'est donc, justement ce commentaire-là qui va choquer.
Exact. Et puis, ben, justement, cette personne-là, elle nous dit qu'elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est entre les deux. Elle est probablement née de parents, justement, de deux peuples différents qui ont réussi à être un couple et à avoir un enfant, ce qu'elle elle tente de faire. Et puis, bon, ben, il y a tout le malaise qui vient d'elle, qui vient de le public et de l'animatrice qui ne sait pas reprendre la chose. Puis, il fait très chaud, il y a une canicule. Rien ne va bien dans ça. Et ça a créé quand même une poussée pour qu'elle se mette à écrire ce livre-là des années après avoir écrit celui qui s'appelait Grosse et qui faisait le sujet de la table ronde. Donc, un beau livre pour aborder ce malaise-là de la force des mots, jusqu'où un mot peut blesser quelqu'un d'autre. Puis le tort qu'il peut faire aussi. Alors, puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puis avec les mots qu'on peut plus dire, ça devient très délicat, effectivement, pour un auteur d'aller à une table ronde et d'être à l'écoute. Tout le monde va l'écouter, puis ils vont juger ses propos. Elle a peur, elle dit qu'elle est terrifiée à l'idée d'aller faire une rencontre comme ça pour parler de ses livres. Bref, deux livres qui se ressemblent finalement, parce que deux personnes qui remontent d'un drame, d'un choc, parce qu'ils ont eu toutes les deux un manque à l'enfance dans les rapports familiaux et les relations, et qu'ils ont chacune à leur façon surmonté ces épreuves-là. Alors c'est pas joyeux, mais je peux terminer juste en disant que si vous avez envie de rire, vous pouvez peut-être lire le titre lauréat du prix des collégiens, le livre de Maud Jarry qui s'appelle La mère des larmes.
Vous l'aviez adoré, hein, je me souviens, vous en aviez parlé sur les ondes.
Vous avez encore lu, Hélène, le livre?
Ben moi, j'ai commencé à le lire en vacances et puis après ça, ben j'étais dans le tourbillon du travail. Puis j'ai beaucoup de lectures à faire pour le travail, mais c'est sûr que je vais m'y remettre parce que c'est trop bon. J'aime son style, j'aime son ton. Oui. Je ne sais pas pourquoi là, je l'ai lâché, mais c'est pas parce que je l'aimais pas, au contraire.
Ben, vous aurez la chance d'y retourner, comme les 61 étudiants qui ont choisi ce titre-là comme étant le livre de l'année.
Vous étiez sur place pour assister à cette remise de prix.
Et je crois qu'un facteur très important, c'était l'humour, l'autodérision de l'autrice par rapport à son problème. Justement, elle en a tout un, elle aussi. Et c'est très féministe aussi. Alors, parce que tous les titres étaient bien sûr intéressants, mais celui-là est vraiment ressorti partout. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de filles aussi parmi les représentants des cégeps. Donc, c'est un livre féminin là aussi. Et puis, je pense que ça promet, parce que c'est le premier roman de Maud Jarry. Elle a écrit des poèmes avant, mais donc, moi, je le suggère là, pour une lecture qui fait du bien attendant le printemps.
Il faut rappeler le titre, « La mère des larves ».
Des larves.
Et c'est écrit aux éditions de la mer par Maud Jarry. Merci pour tout ça, très chère Anne-Marie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.